RFI Radio France Internationale, 8h à Paris, 9h à Mamoudzou.
RFI Matin.
Et tout de suite, c'est le journal de Marion Cazeneuve. Bonjour Marion.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Le président français à Mayotte pour faire le point sur la reconstruction après le passage du cyclone Chido.
4 mois après, les chantiers n'avancent pas et n'ont pas vraiment commencé. D'ailleurs, l'activité économique n'a pas repris non plus. On est à Mayotte dès le début de ce journal. Les combats reprennent de plus belle en Ukraine après une trêve pascale qui n'a jamais été respectée. En RDC, le pouvoir engage des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila après sa visite à Goma, ville contrôlée par le M23. On sera aussi en Haïti où les gangs poursuivent leur progression avec des combats sanglants ce week-end contre les forces de l'ordre en périphérie de la capitale. Et puis le FMI et la Banque mondiale entament des réunions de printemps sur fond d'incertitudes sur l'économie mondiale.
4 mois après, Mayotte peine à se relever du cyclone Chido.
40 morts et 3,5 milliards d'euros de dégâts venus au chevet des habitants juste après la catastrophe. Le président français Emmanuel Macron retourne sur cet archipel de l'océan Indien. Il a atterri il y a quelques minutes et il vient se rendre compte de la situation sur place, des chantiers qui n'ont pas encore commencé, de l'activité économique paralysée. Notre correspondante Lisa Morisseau a rencontré une restauratrice qui craint de mettre la clé sous la porte.
Notre salle de restaurant est complètement détruite, donc elle était là.
Depuis 12 ans, Nadine Matokong est la gérante du Paris 13, un restaurant à Mamoudzou. Aujourd'hui, la salle principale est en ruine. La gérante attend l'indemnisation des assurances. Les travaux de reconstruction n'ont pas commencé et elle n'a aucune perspective pour relancer son activité.
Et l'entreprise n'a pas de revenus puisqu'on a eu des aides qui couvrent les charges fixes jusqu'au 20 janvier à peu près, puis c'est tout. Et sinon, l'activité partielle pour les salariés, donc c'est pas suffisant du tout.
Elle a obtenu 5000 euros dans le cadre d'une aide exceptionnelle, mais si celle-ci n'est pas renouvelée, elle craint de mettre la clé sous la porte. Avant Chido, les petites entreprises étaient déjà fragilisées par les multiples crises qu'a connues le territoire, notamment les barrages qui ont bloqué l'île début 2024 et les difficultés liées à l'eau. Fahardine Mohamed, le président du MEDEF Mayotte, demande un renouvellement des aides.
Nous, on demande la reconduction. C'est beaucoup d'activités qui sont complètement fermées. Mais s'il n'y a pas d'aide, minime qu'elle soit, mais là c'est encore une désolation, c'est encore la fermeture de toutes les activités concernées, en tout cas sur le territoire.
Les acteurs économiques espèrent être entendus par le président de la République aujourd'hui. Lisa Morisseau, Mayotte, RFI.
Emmanuel Macron restera sur place quelques heures avant de partir pour un autre département français d'outre-mer, La Réunion, touchée par une épidémie de chikungunya. Il se rendra ensuite à Madagascar et sur l'île Maurice.
En Ukraine, la trêve pascale n'a jamais commencé.
Et vient de s'achever. Annoncée par la Russie, les deux pays se sont mutuellement accusés de ne pas respecter cette trêve. Et les combats ont donc repris de plus belle. Correspondance à Kiev d'Emmanuel Chaz.
Les Ukrainiens ne croyaient pas en cette trêve surprise annoncée par Vladimir Poutine samedi après-midi. Ce cessez-le-feu pascal qui devait durer quelques 30 heures n'aura finalement pas eu lieu. Si une accalmie a effectivement eu lieu dans les airs au-dessus des civils ukrainiens dans l'ensemble du pays pendant 24 heures, les armes sur le long de la ligne de front ne se sont, elles, pas tues. Alors que la Russie accuse l'Ukraine d'avoir violé la trêve, Kiev dénonce près de 3000 violations côté russe, avec le plus fort des combats dans le secteur de Pokrovsk. Volodymyr Zelensky précise qu'une centaine d'assauts russes ont été lancés contre les positions ukrainiennes et renouvelle son offre d'observer la proposition américaine d'un cessez-le-feu au moins partiel et au moins sur les infrastructures civiles de 30 jours, comme cela avait été évoqué le 11 mars, alors que les sirènes ont à nouveau retenti dans le ciel ukrainien peu après minuit et jusqu'aux premières heures du jour dans plusieurs régions. Un nouvel essaim de drones russes kamikazes enterre pour l'instant l'espoir de cesser le feu. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
À Gaza, l'armée israélienne reconnaît des fautes lors de la fusillade menée contre des secouristes du Croissant Rouge. 15 Palestiniens ont été tués dans cette fusillade le mois dernier. L'armée israélienne a publié hier les conclusions d'une enquête interne. Elle dit avoir limogé un gradé, mais estime que ces soldats n'ont pas tiré de manière aveugle sur ces secouristes. Le Croissant Rouge, lui, réclame une enquête indépendante. La défense civile de l'enclave dénonce ce matin des exécutions sommaires de l'armée israélienne.
En République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila visé par des poursuites judiciaires.
Après sa visite vendredi à Goma, ville contrôlée par le M23 soutenu par Kigali. Le gouvernement l'accuse de haute trahison pour son implication présumée dans l'agression rwandaise à travers le groupe rebelle AFC M23. Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, appelle à la rigueur juridique et à l'indépendance totale de la justice.
Tantôt on dit qu'il est là-bas, tantôt on dit qu'il n'est pas là. Nous restons sur notre soif, comme lui-même avait promis qu'il ferait un discours à partir de là. Les faits qui sont portés contre le président Kabila sont extrêmement graves, exigent des preuves irréfutables que les choses qu'on dit contre lui sont exactement vraies avant de lancer ce genre de poursuites. On ne peut pas considérer que le fait pour lui d'aller à Goma soit constitutif d'une infraction. Ceux qui sont au pouvoir sont pressés d'aller très vite, mais il est important toujours de documenter suffisamment les faits, même s'ils sont graves, pour que, une fois la procédure mise en branle, qu'on ne puisse pas dire qu'on a commis des erreurs et qu'il faut faire la marche arrière. Elle devra vérifier que toutes les conditions ont été réalisées pour ne pas verser dans l'agitation des politiciens.
Jean-Claude Katende, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme. En Centrafrique, le pouvoir se dit ouvert au dialogue avec l'opposition avant la présidentielle de décembre. Dialogue réclamé justement par cette opposition qui craint que le président Faustin Archange Touadéra ne se présente pour un troisième mandat.
Et on en parle ce matin, Marion, avec notre invité Afrique, le ministre conseiller spécial Fidèle Gwandjika. Entretien à suivre dans un peu plus d'une demi-heure sur notre antenne RFI. Il est 6h06 en temps universel. En Haïti, les gangs étendent chaque jour un peu plus leur emprise sur le pays, surtout dans la capitale.
15 coffres dans sa périphérie étaient épargnés jusqu'à il y a quelques semaines. Peterson Luxama, la commune a été secouée ce week-end encore par des combats sanglants avec les forces de l'ordre.
Dans la commune de 15 coffres, la semaine pascale n'a pas vu la violence diminuer. Ce week-end, les gangs armés ont à nouveau attaqué, selon Jean Massillon, maire de la ville.
Ce matin, ils ont recommencé à tirer aussi sur les membres de la population. Comme ça, il y avait un backup qui venait du centre-ville pour rapporter renfort aux soldats de la FADH sur le terrain. Malheureusement, il y a eu des morts du côté des soldats des FADH.
Décidément, les gangs veulent étendre leurs tentacules jusqu'au cœur de cette commune, encore considérée, il y a peu, comme un havre de paix. Selon le maire, les bandits veulent prendre le contrôle de cette région afin de pouvoir renforcer leur emprise sur toute la capitale.
Kinskoff, c'est une zone stratégique. Ils ont visé de s'accaparer d'abord de la commune de Kinskoff afin de pouvoir s'accaparer des autres espaces du département de l'Ouest.
Alors que les gangs ont montré qu'ils ne comptent pas reculer, les forces de l'ordre n'entendent pas lâcher du lest, affirme le maire.
Nous ne voulons pas cohabiter avec les gangs et nous allons mettre toute notre force pour pouvoir aider la police à les repousser.
Repousser les gangs, une mission qui semble difficile pour les autorités concernées et les criminels gagnent un peu plus de terrain chaque jour. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
La situation en Haïti sera au cœur des discussions aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'était affiché complice la semaine dernière à la Maison-Blanche. Le président salvadorien ne cache pas sa proximité avec son homologue américain Donald Trump. Nayib Bukele a même accepté un accord migratoire avec Washington pour accueillir des Vénézuéliens expulsés des États-Unis. Ces migrants sont pour la plupart accusés de faire partie d'un gang. Et hier, Nayib Bukele a proposé au Venezuela un échange de prisonniers. Il remettrait ces Vénézuéliens expulsés contre la libération de prisonniers politiques détenus à Caracas.
À Washington, le coup d'envoi aujourd'hui des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale.
Dans un contexte inédit, celui de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Et plus globalement, l'imprévisibilité du président américain, sa défiance à l'écart des organisations internationales. Charlotte Cosset.
Les gens ne se rendent pas compte de l'importance des États-Unis au sein du fonds, a souligné Kristalina Georgieva, sans manquer de rappeler par ailleurs l'intérêt du FMI pour Washington. Au cours des deux dernières années, les États-Unis ont perçu 3,1 milliards de dollars d'intérêt pour l'argent qu'ils ont prêté au pays dans le besoin, a précisé la directrice de l'institution. De son côté, la Banque mondiale assure dialoguer de manière constructive avec l'administration Trump, mais après s'être retirée de l'OMS et avoir démantelé l'USAID, Les observateurs craignent des coupes dans les fonds dédiés au changement climatique. Or, près de la moitié des fonds de la Banque mondiale y sont consacrés. Il faut éplucher l'oignon, veut rassurer Ajay Banga, le directeur de la Banque mondiale. Dans ces 45% se trouvent par exemple des projets d'atténuation, comme le corridor de Lobito pour le transport de minerais par voie ferrée plutôt que par la route. Également des projets gaziers en Afrique dans le cadre de la transition énergétique. Pour Kristalina Georgieva, il ne fait aucun doute que ce rassemblement constituera un forum de dialogue essentiel à un moment crucial.
Charlotte Cosset, ce sujet, on y revient dans 5 minutes dans notre rendez-vous aujourd'hui. L'économie, ce sera avec Stéphane Geneste. Le vice-président américain, lui, vient d'atterrir en Inde.
Visite de 4 jours de J.D. Vance pour des discussions commerciales et des visites culturelles. L'Inde compte sur sa visite pour avancer vers un accord de libre-échange avec les États-Unis pour échapper à de potentielles futures taxes douanières. À Bangalore, Combastin.
C'est la première visite de J.D. Vance en Inde et vue d'ici, elle est très importante. Donald Trump et Narendra Modi ont par le passé affiché leur amitié et leur convergence idéologique à droite. Usha Vance est originaire d'Inde et une hindoue pratiquante. Son mariage avec le chrétien Vance est un symbole du pont entre les deux pays. Ce lundi à New Delhi, le vice-président américain devrait aborder le vif du sujet lors de sa rencontre puis de son dîner avec le premier ministre indien. Suspendu pour encore 80 jours, les barrières de Trump pourraient remonter à 26% ensuite. Les discussions porteront aussi sur l'achat de matériel militaire américain. L'Inde, qui n'a pas vraiment les moyens de riposter à la guerre commerciale des États-Unis, privilégie le dialogue avec l'objectif, à long terme, d'obtenir un avantage commercial compétitif face à la Chine lourdement taxée. J.D. et Usha Vance passeront ensuite 2 jours dans l'état du Rajasthan, où ils visiteront la ville de Jaipur, puis dans l'Uttar Pradesh pour l'immanquable Taj Mahal. Combastin, Bangalore, RFI.
On termine, Marion, dans un lieu emblématique de Londres, une place piétonne très animée, mais qui le sera un peu moins désormais.
La Leicester Square, réputée pour ses prestations quotidiennes d'acrobates, de danseurs, de musiciens. Et ces musiciens, souvent, montaient un peu trop le son et cassaient les oreilles des riverains qui ont déposé plainte. Et ils ont gagné, fini la musique sur cette place touristique, Sidonie Gaucher.
Sur la place touristique, l'ambiance était assurée par les artistes de rue. C'est maintenant terminé à cause des plaintes des riverains. La mairie de Westminster a dit stop au vacarme. Pour James, un Anglais de 9 ans, c'est une déception.
Oui, je suis très triste car je venais ici avec mes parents et il y avait beaucoup de musique. C'était très vivant et je trouvais ça super chouette avec tous ces gens qui chantaient et qui dansaient. J'adorais ça.
Pour autant, la qualité de spectacle n'était pas toujours au rendez-vous. Certains artistes jouaient sans autorisation et de façon souvent agressive. Alors pour Dana, caricaturiste accrédité, cette décision est plutôt un soulagement.
Parfois, on les abordait et on leur demandait de baisser le volume, mais ils étaient très agressifs, ils étaient irrespectueux. C'était une vraie torture psychologique de les écouter encore et encore.
Avec moins de bruit, on peut presque entendre le son de la fontaine de Shakespeare au milieu de la place et des passants. Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Et sur RFI, on entendra encore pas mal de musique ce matin avec le choix musical ou encore dans le journal de 7h, temps universel.
Et ça, c'est une bonne nouvelle. Merci Marion Kazanov. C'était le journal sur RFI, 8h13 à Paris, dans 20 minutes, l'information africaine. Juste avant, notre invitée, la spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter Sophia Amara, entretien avec Gaëtan Plenet, à suivre. Et d'abord, on retrouve Victor Missistrano pour l'info sport sur RFI. À la une, Victor, le football d'abord. En France, les derbies donnent souvent lieu à des matchs électriques. Celui d'hier soir n'a pas dérogé à la règle.
C'est Saint-Etienne qui est parvenu à s'imposer contre son voisin lyonnais de Buzyn. Un match interrompu pendant 45 minutes alors qu'on approchait de la mi-temps. L'un des arbitres assistants a reçu un projectile sur la tête venue des tribunes. Le match a finalement repris et Lyon s'est donc incliné pour conclure une semaine catastrophique où l'OL a aussi subi une élimination cruelle en Ligue Europa contre Manchester United. De son côté, Saint-Etienne engrange des points précieux dans la course au maintien. Les Verts qui peuvent remercier leur attaquant belge, Lucas Tassin, auteur d'un doublé.
C'était incroyable, franchement, quelle ambiance. Quel plaisir de jouer des matchs comme ça, franchement, c'est incroyable. Et puis en plus, avec la victoire, c'est incroyable. J'ai eu un petit temps d'adaptation et puis on a aussi changé avec le coach notre manière de jouer. Je joue beaucoup plus haut. Puis voilà, il m'a quand même fait progresser. J'ai travaillé énormément pour faire un gros deuxième tour. Je travaillais chaque jour et puis voilà, heureusement pour moi, ça paye.
Et dans les autres résultats de ce dimanche, victoire de Lille 3-1 contre Auxerre avec un doublé de Jonathan David. Même score pour Lens à Brest. Succès de Nice contre Angers 2-1 et de Rennes, Andréane devant Toulouse 1-0.
En Italie, toujours plus de suspense tout en haut du classement.
Car l'Inter Milan s'est incliné 1-0 à Bologne hier. Les tenants du titre avaient vu revenir Naples à égalité. Tout reste à faire donc à 5 journées de la fin. En Angleterre, Liverpool continue de se rapprocher du titre. Succès 1-0 à Leicester hier. Mais Arsenal retarde la fête avec sa victoire à Ipswich 4-0. Les Gunners restent à 13 longueurs et empêchent donc mathématiquement le sacre des Reds. Tombeur du Real Madrid mercredi en Ligue des Champions, les joueurs de Mikel Arteta restent sur une très bonne dynamique à la grande satisfaction de leur entraîneur.
Je suis très heureux de la performance. Je pense que les 35 premières minutes sont les meilleures que nous ayons jouées cette saison à l'image du match de Madrid. Nous avons marqué 2 buts, nous aurions pu en marquer 3 ou 4 pour être honnête. Nous avons vraiment dominé le match. Nous avons fait preuve d'une grande intensité et nous avons compris ce que nous devions faire aujourd'hui pour gagner ici. Et après, évidemment, quand Ipswich Town a reçu le carton rouge, le contexte du match a changé et nous avons eu le contrôle. Nous avons marqué 2 autres buts, fait certains changements. Dans l'ensemble, c'est un après-midi très positif.
Et puis en Espagne, victoire in extremis hier du Real Madrid face à Bilbao 1-0. Grâce à Federico Valverde dans le temps additionnel, les Merengues reviennent à 4 longueurs du leader, le FC Barcelone. Le Barça, dont l'équipe féminine est aussi dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Les Barcelonaises ont survolé leur demi-finale aller contre Chelsea 4-1. Enfin, puisqu'on est dans la capitale de la Catalogne, on y reste pour du tennis avec l'épilogue du tournoi de Barcelone. C'est le Danois Holger Rune qui a remporté la finale contre l'Espagnol Carlos Alcaraz. 7-6, 6-2.
Victor Missistrano pour l'info sport. Merci à vous, vous revenez dans une heure.
RFI Matin.
Et c'est aujourd'hui l'économie tout de suite sur RFI. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Ça commence aujourd'hui, pardon, à Washington, les réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'idée, c'est de parler de l'état de l'économie mondiale entre organisations dédiées, mais aussi ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales. Une édition, Stéphane, qui s'ouvre évidemment dans un contexte particulier marqué par la politique commerciale de Donald Trump.
Oui, car depuis son retour à la Maison-Blanche, il a moins de 100 jours. C'était seulement le 20 janvier. Donald Trump a relancé la guerre commerciale contre pratiquement tous les pays du globe. Alors on le rappelle, tous les produits qui entrent aux États-Unis sont taxés à hauteur de 10%. Ça monte jusqu'à 145% sur certaines importations chinoises. Réponse de Pékin, 125% sur les produits américains. Bref, Andréane, cette escalade entre les deux premières économies mondiales a des conséquences pour la planète tout entière.
Et ça inquiète et le Fonds monétaire international et la Banque mondiale.
La directrice générale du FMI l'explique elle-même, mais elle reste modérée. Kristalina Georgieva estime aujourd'hui que l'incertitude sur les politiques commerciales mondiales est, je cite, hors normes, selon plusieurs études du FMI justement. Le taux effectif moyen des droits de douane américains atteint désormais environ 20%. Et les conséquences, elles sont très concrètes. Par exemple, le dollar s'affaiblit alors qu'il est perçu comme une valeur refuge. Et puis la croissance américaine en souffre. D'après le Peterson Institute, elle devrait tomber à 0,1% cette année. C'est loin, très loin de ce qui était envisagé il y a encore quelques semaines, à savoir 2,5%.
Ce qui va irrémédiablement avoir un impact sur la croissance mondiale. C'est d'ailleurs de cela dont il sera essentiellement question durant ces réunions de printemps.
Ouais, c'est vrai, toujours d'après la directrice du FMI, il faut se préparer à revoir sa copie. Cela parce que l'institution financière prévoit désormais une révision à la baisse des perspectives économiques mondiales. Le rapport devrait justement être publié cette semaine. Si en janvier, juste avant l'investiture de Donald Trump, la croissance mondiale pour 2025-2026 était estimée aux alentours de 3,3%, eh bien, elle devrait diminuer. Ce chiffre semble aujourd'hui optimiste, voire complètement irréaliste, car la croissance de la planète aurait dû être stimulée par celle des États-Unis. Or, on vient de le dire, elle devrait être pratiquement atone.
D'autant que cette semaine, la vision du multilatéralisme de Donald Trump va être dans toutes les têtes.
Une vision, il faut bien le dire, assez personnelle du président américain, en effet, car les États-Unis sont les premiers actionnaires du FMI. Le pays est aussi essentiel dans le fonctionnement fonctionnement de la Banque mondiale puisqu'il y est représenté via 17% des capitaux de l'institution. Et lorsque l'administration Trump remet en cause son rôle dans l'activité de ces deux instances, c'est en effet tout un pan de l'économie mondiale qui est en sursis.
Comme par exemple, Stéphane, l'aide au développement.
Exactement. D'après l'OCDE, elle a diminué de 7% l'an passé. Cette année, elle devrait encore baisser entre -9 et -17%. Alors concrètement, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros en moins. Les patrons du FMI et de la Banque mondiale appellent ainsi à des réformes profondes de l'économie, plus équilibrées, plus résilientes. Avec une priorité, Andréane, continuer à dialoguer avec toutes les parties, même avec les États-Unis. Sauf que pour échanger, vous en conviendrez, il faut être au minimum deux. Et Donald Trump ne compte visiblement pas faire partie de la discussion.
Stéphane Genest, merci à vous. RFI 8h20 à Paris, on passe à notre invité. Dans nos studios ce matin, Sophia Amara, grand reporter spécialiste du Proche-Orient. Elle signe le documentaire Syrie à l'épreuve du pouvoir, diffusé demain sur la chaîne de télé Arte. Et elle répond à Gaëtan Plenet. Bonjour à vous.
Bonjour Sophia Amara.
Bonjour.
Le 8 décembre dernier, au terme d'une offensive éclair de quelques jours seulement, les rebelles syriens menés par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham, HTC ou HTS pour l'acronyme anglais, renversaient le président Bachar al-Assad, contraint de fuir le pays. Votre documentaire s'ouvre justement sur ces images, ces ambiances sonores d'un homme qui annonce en pleine nuit la chute du régime. Les gens se réveillent, on entend des you-you. Est-ce que c'est vraiment ça, la joie qui dominait ce jour-là dans les rues du pays quand vous y êtes allé, ou il y avait tout de suite des sentiments assez mixtes ?
Non, c'est exactement cela, et plus que la joie, c'est l'incrédulité, c'est une ivresse à travers toute la population ressentie dès que nous étions sur place quelques heures après la chute de ce régime qui est en place depuis 2000 et même avec le père Hafez al-Assad, cela fait plus de 50 ans, et donc une incrédulité. Et la chose qui revenait, ou ce qu'on nous disait à chaque fois qu'on avançait dans ce pays délivré de cette tyrannie, c'est on ne veut pas aller dormir, on a peur de s'endormir et de se réveiller et de réaliser que ce n'est pas vrai, que ce n'était qu'un rêve.
Alors on aurait pu s'attendre au chaos le plus total après 14 ans de guerre civile très sanglante. C'est pas franchement ce que montre votre documentaire finalement. On n'est pas dans le chaos le plus total.
C'est tout l'inverse. Tout le monde avait prédit, même ceux qui attendaient et qui appelaient à la chute de ce régime, craignaient que la Syrie s'enfonce dans un bain de sang, parce qu'il y a eu pendant 14 ans tant d'horreurs, tant de fractures au sein de la société syrienne. Et finalement, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Parce qu'en quelques jours, comme vous le disiez, le régime est tombé. Non seulement il est tombé, mais avec un bilan qui évidemment est très peu élevé par rapport à ce qu'on
morts,
on parle de moins de 1000 morts. Et donc, évidemment, c'était inespéré. Et ça encore, c'est un succès pour ce nouveau régime qui a évidemment bien d'autres qualités, mais aussi des défauts et qui inquiète éminemment.
Alors, on parle de la joie, mais il y a quand même cette phrase qui a retenu mon attention dans votre documentaire, et cette femme que vous filmez et qui dit que les trois quarts des Syriens n'ont pas encore de raison de se réjouir car ils ont un proche disparu. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez ressenti. Quand même une joie, certes, les premières heures, mais beaucoup d'attentes.
Beaucoup d'attentes et beaucoup d'inquiétudes. Mmh. Et chacun a ses propres inquiétudes, et elles sont différentes selon que l'on soit dans une communauté ou l'autre, dans un camp ou l'autre. Pour ceux qui sont évidemment ravis de la chute du régime et qui ont perdu leurs proches, soit tués, soit portés disparus puisqu'ils ont été emprisonnés, qu'ils ne les retrouvent pas, eh bien, on a des attentes et des demandes différentes. Dans le cas de cette jeune femme, comme dans beaucoup de familles, il y a des disparus, des personnes qui ont été mises en prison et dont on ne retrouve pas la trace. Beaucoup sont dans le déni.
En l'occurrence, cette femme cherche son frère.
Cherche son frère qui est très probablement mort, sauf qu'elle est persuadée qu'il ne l'est pas, et c'est le cas de beaucoup de familles.
Alors
et
que tout le monde lui dit dans votre documentaire, tout le monde, les prisons qu'elle visite, ils lui disent, votre frère n'est pas revenu, n'est pas sorti ce jour-là, c'est qu'il est probablement mort, mais elle ne semble pas vouloir y croire.
Exactement, et il y a une scène qui est particulièrement marquante et qui montre à quel point ce déni est généralisé, eh bien c'est à Saïdnaya, qui est le fameux abattoir humain où finissaient beaucoup de détenus, et où il y a eu des pendaisons, on parle de crématoires également à Saïdnaya, et que les gens, lorsque les portes de Saïdnaya, les portes de l'enfer, pour reprendre leur expression, se sont ouvertes, il n'y a eu que 2000 ou 2500 prisonniers libérés. Et finalement, on s'attendait à trouver des dizaines de milliers de personnes. Les gens ont commencé des parents même, à main nue, à creuser, pensant qu'il y avait des sous-sols, des souterrains qui n'étaient pas accessibles. Et les anciens de Saïnaïa leur ont dit, arrêtez d'être dans le déni, arrêtez de chercher. Ce que vous voyez, c'est tout ce qu'il y a. Les autres sont probablement morts.
Vous y êtes vous-même allé dans cette prison Saïnaïa? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans un lieu aussi macabre?
C'est indescriptible. Tout ce qu'on en a entendu, j'ai beaucoup travaillé avec des anciens de Saïnaïa qui essayaient de me décrire cette horreur, mais effectivement, les odeurs, les lumières, les murs, les inscriptions des prisonniers, les jouets d'enfants retrouvés là-bas, les habits de femmes, des pilules contraceptives, parce que les femmes là-bas étaient violées, elles ont eu des enfants sur place, certains rebelles qui sont arrivés, qui ont libéré Saïnaïa, notamment Firas, qu'on voit dans mon film, qui est un ancien de l'armée syrienne libre et qui, à quelques pas de Damas, a préféré bifurquer pour aller libérer Saïnaïa, parce que selon lui, libérer Saïnaïa, ça voulait dire qu'on avait vraiment libéré
c'était
la Syrie.
Le symbole.
Exactement. Et au lieu d'aller faire des selfies à Damas, il n'est pas allé à Damas. Et avec 400 hommes, ils sont allés libérer Saïnaïa dès 4h du matin.
Alors, dans ce documentaire, vous retracez assez longuement le parcours d'Al-Jolani, qu'on appelle désormais à nouveau par son nom et non plus par son nom de guerre, hein, Ahmed El-Shara, président par intérim, qui a mené les hommes d'HTC dans cette rébellion. Vous revenez sur son départ en Irak avec ses motivations islamistes, sa capture par les Américains, son passage aussi par le camp de Bouka et puis le front Nosra évidemment qu'il a dirigé. Tout ça, c'est nécessaire pour comprendre le Ahmed El-Shara d'aujourd'hui et donc ce que sera la Syrie de demain. Il faut comprendre d'abord qui est Al-Jolani.
En tout cas, il faut le savoir. Le comprendre, pas nécessairement, parce que finalement, aujourd'hui, il semble bien différent de ce qu'il a été. Mais il faut quand même garder en tête d'où il vient et s'interroger pourquoi pendant 14 ans, cette population livrée à elle-même, abandonnée par la communauté internationale, en est arrivée à célébrer un homme pareil. C'est ce qu'il lui reste. C'est ce qu'on lui a laissé comme option et c'est le seul qui a réussi à fédérer, à renier le djihad global, à se syrianiser pour fédérer toutes les factions qui n'adhéraient pas à Al-Qaïda, contrairement à lui, qui a finalement lui aussi rompu ses liens avec la nébuleuse terroriste, pour en arriver aujourd'hui à ce stade-là.
Alors très vite, les nouvelles autorités ont voulu adopter un ton plutôt rassurant sur les libertés retrouvées des Syriens, sur la promesse d'une paix entre les différentes communautés du pays, sur le pardon aussi accordé aux ex-soldats du régime qui n'auraient pas de sang sur les mains. Tout ça, dans votre documentaire, on voit quand même que c'est encore très fragile, toutes ces promesses-là.
Alors, plus que fragile, c'est un réel défi pour le nouveau pouvoir, parce que dans un premier lieu, il doit gérer sa base extrémiste. Évidemment, déjà à Idlib, le bastion qu'il maîtrisait dans le nord de la Syrie, il contrôlait dans le nord de la Syrie, il a mis en prison tous les combattants d'Al-Qaïda et de Daesh. Et donc, il a quand même une base djihadiste qui lui en veut un peu. Et dans le même temps, il doit faire face à tous ceux tous les proches des victimes qui lui demandent pourquoi vous avez amnistié les anciens du régime. Sauf que s'il veut créer un État, faire la réconciliation, il doit trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire entre la justice pour les victimes et la réconciliation au sein de la société civile pour avancer et tourner la page du passé.
C'est difficile à trouver comme équilibre, on l'a vu en mars dernier avec ces attaques de partisans laouites réprimées dans le sang. C'est quand même encore très difficile aujourd'hui d'imaginer que ce défi va être relevé sans effusion de sang.
Écoutez, évidemment, ce qui s'est passé dans la zone alaouite, en fait, tout le monde craignait que ça n'ait lieu dès le lendemain de la chute du régime. Ça n'a pas eu lieu. Ça a eu lieu des semaines plus tard. Ça a commencé par une attaque des pro-Bachar, qui ont évidemment tué quelques 170 membres de la sûreté du nouveau régime, et la réaction a été atroce, puisque non seulement il y a eu des représailles contre les hommes en armes, les proches du régime, mais également des exactions gravissimes contre des civils.
Et tout ça, on le voit dans votre documentaire, je rappelle le titre, Syrie à l'épreuve du pouvoir. C'est une production Lila Prod et ce sera diffusé demain, mardi, à 22h30, heure de Paris, sur la chaîne Arte, et à retrouver aussi sur le site internet de la chaîne. Merci à vous, Sophie Amara, d'avoir accepté l'invitation de RFI ce matin.
Merci Gaëtan.
Avec Gaëtan Plenet, Sophie Amara, grand reporter spécialiste du Proche-Orient, c'est à retrouver sur notre site rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré reçoit des spécialistes pour faire le point sur l'actualité médicale dans le monde.
Aujourd'hui, la voix, elle se forme à travers les cordes vocales. Quels facteurs peuvent les fragiliser? Comment prendre soin de cet organe de la parole? Demain, les maladies chroniques sont souvent vécues comme un fardeau pour les patients. Comment la psychiatrie peut aider à mieux vivre cette épreuve?
Priorité santé avec Sounou Assurance.
Du lundi au vendredi à 9h10 TU sur RFI.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Ce lundi sur RFI.
Pourquoi les mathématiques sont universelles?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Regard croisé de deux mathématiciennes engagées dans la transmission et le partage de leur science, mais surtout du plaisir et même de la joie de chercher et de comprendre, comme le disait Galilée, pourquoi le monde est écrit en langage mathématique.
Autour de la question avec Caroline Lachowski. Tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.